le journal de Marceline Michon.
Bonjour, elle avait suscité des craintes chez les enseignants jurassiens. La réforme de la grille horaire à l'école secondaire est désormais sous toit. On vous la présente avec le ministre de la Formation invité de ce journal. Une attaque contre la fonction publique qui ne passe pas. Le Parlement jurassien a voté hier la suppression de 100 EPT dès 2030. Réaction du syndicat des services publics à suivre. Après deux opérations, Steve Guerda est proche d'un retour à la compétition. Le cavalier élu hier à sportif jurassien de l'année fera le point sur son état de forme. Brève incursion de l'hiver avant ce week-end pascal. La limite de la neige pourrait descendre à 1000 mètres aujourd'hui. Maximum 9 degrés en plaine, 5 sur les hauteurs de la région. Il fera meilleur demain. Une nouvelle grille pour les élèves de l'école secondaire jurassienne à la rentrée 2026. Fruit d'une large consultation, elle prévoit un renforcement des langues et des changements concernant les cours à option. Les modifications ont été validées par le gouvernement cantonal et présentées ce matin. Tour d'horizon avec vous, Régis Cerf.
Une leçon de plus en anglais pour les 11e, une supplémentaire aussi en allemand pour le niveau C et plus de pratiques de l'oral dans les deux langues. L'économie aussi se fait une place dans le programme en 10e, alors que les activités créatrices et manuelles seront introduites pour tous les écoliers désormais. Nouveauté également avec la suppression des options 1 à 4 actuelles. À partir de 2026, les élèves pourront choisir entre 4 possibilités en 10e et 11e, le latin, l'italien, les activités techniques ou les mathématiques et sciences de la nature. À signaler encore l'introduction de leçons de techniques d'apprentissage et d'accompagnement de projet pour les 11e de niveau C.
Et pour commenter cette réforme, on reçoit le ministre de la Formation.
Oui, Martial Courtais, bonjour, soyez le bienvenu.
Bonjour, merci.
Alors, on va bien sûr revenir sur les éléments que j'ai cités tout à l'heure. J'aimerais quand même qu'on revienne un peu sur la phase de consultation. Elle a été animée, vous ne vous en êtes pas caché lors de la conférence de presse ce matin. Finalement, vous avez adopté les éléments les plus consensuels.
J'aime pas ce mot consensuel parce que ça voudrait dire compromis mou. Or, je vous en avais fait part d'ailleurs à ce sujet quand vous étiez venu me trouver. Je suis toujours assez direct. Et là, dire que la consultation, elle sert à ça. Sinon, on ne consulte pas. Le but, c'est de consulter largement ce que nous avons fait. Quand vous avez fait part de vos craintes, ou plutôt, vous avez répercuté les craintes que vous avez entendues de la part des enseignants, qui sont normales, j'entends, chaque fois qu'on présente un changement, il y a toujours des craintes face au changement, c'est humain, et c'est sûrement pas que chez les enseignants, c'est général dans notre société, évidemment. Mais dans ce sens, on a consulté pour avoir des réponses. Donc, on savait ce qu'on voulait. On a allé un peu plus loin sur certaines questions, il y avait une trentaine de questions. Donc on était assez large dans la consultation, et dans ce sens, toutes les craintes, à chaque fois que les enseignants sont venus en disant, en venant avec une peur peut-être, on a dit, mais donnez vos avis dans la consultation, ça sert à ça. Et nous avons entendu ces avis. Globalement, les grandes lignes restent les mêmes, j'y reviendrai volontiers, mais du coup, il y a certains points de vigilance qu'on a entendus et que nous avons écartés de cette réforme, et je crois que c'est comme ça qu'on avance, sinon on ne consulte pas.
D'accord, alors cette réforme, plus d'oralité, plus de langues, on comprend que les jurassiens ne sont pas les rois du bilinguisme, je crois que ce n'est pas un scoop que je livre, mais comment est-ce que vous comptez faire parler davantage les écoliers dans les deux langues, l'anglais, l'allemand ?
Alors déjà, je crois qu'il faut voir d'où ça vient. C'est vrai que les jurassiens et les jurassiens ne sont peut-être pas les plus enclins aux langues hors du français. Je crois que c'est propre à notre histoire aussi. On en est assez fiers. On a un lien avec la francophonie. On l'a vu encore hier au Parlement jurassien. On a beaucoup parlé de francophonie avec la présidente de l'Assemblée du Québec. Donc ça, c'est notre histoire. Maintenant, on doit avancer. Voilà, Moutier devient jurassienne. On doit avancer. De faire un pas vers le reste de la Suisse. Historiquement, on comprend qu'on n'avait pas envie de le faire, puis maintenant, je pense que c'est le bon moment. C'est le bon moment parce que les entreprises nous le disent aussi. On a ces retours. Quand on discute avec elles, les entreprises jurassiennes sont de plus en plus tournées vers le reste de la Suisse, donc l'allemand, et vers le reste de l'Europe et du monde. Donc, dans ce sens, on devait donner aussi des réponses, et notamment en 11e, on a accentué sur la 11e, la dernière année scolaire, plus d'allemand, plus d'anglais, parce que on avait un peu de retard à ce niveau-là, donc on prend des mesures par rapport à ce qu'on avait constaté, et surtout plus d'oralité, parce que je crois que c'est vraiment là que le changement doit s'opérer, et le fait de permettre des classes par moment plus petites, avec une demi-classe par exemple, pour essayer de parler la langue, eh bien on pense que ça, c'est quand même vraiment ce qui est propre à notre société maintenant et ce dont on a besoin.
Il y a aussi les options 1 à 4 qui vont disparaître, qu'est-ce qui cloche aujourd'hui avec ça ?
Non, c'est pas que ça cloche, mais on pense que nos jeunes maintenant, et notamment après le Covid, ont plus besoin d'accompagnement. Mais ce n'est pas que nos jeunes, globalement. Dans notre société, et quand on parle du budget de l'État, on dit toujours que ça coûte cher, mais c'est parce qu'on accompagne plus les gens. On accompagne plus les gens au social, on accompagne plus nos aînés. En 2040, le nombre de personnes de plus de 80 ans dans le Jura aura doublé. Donc tout ça, ça coûte. Donc on accompagne les gens, on peut en être fier. C'est une société civilisée qui accompagne les gens. Et on veut aussi accompagner la jeunesse. Et comment l'accompagner? C'est-à-dire, la structure, la grille horaire, on la garde. Mais on essaie de rendre un peu plus individuelles certaines choses. Notamment pour les 11e années, je le disais, on pense à cette leçon effectivement d'accompagnement où, pour les élèves qui partent en apprentissage ou qui se questionnent encore sur leur apprentissage, eh bien d'avoir cette approche plus individuelle pour soit renforcer des matières, peut-être se dire, voilà, tu as des lacunes dans certaines branches, peut-être en français, que sais-je, on va travailler un peu plus ça ou travailler l'approche d'un apprentissage. Donc ça, c'est une volonté d'individualiser un peu plus en gardant bien sûr la structure qui a fait ses preuves.
Alors, il y a un aspect quand même coût. Est-ce qu'il y a des répercussions sur le personnel, sur les répercussions financières? Est-ce qu'il y aura des réorientations pour les enseignants? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça?
Alors, vous l'avez vu à la conférence de presse, donc pas de changements fondamentaux. La structure globale, elle reste. D'ailleurs, c'était une question du Parlement. On n'a pas décidé tout seul là non plus. On a entendu dès le début de mon mandat, je me souviens, 2016-2017, on s'était questionné, des députés se questionnaient sur le système ABC, est-ce qu'il faut faire comme Neuchâtel, qui avait finalement enlevé un niveau pour dire tous les élèves sont soit A, soit B, ça crée moins de tensions avec les parents. Mais je crois qu'on n'est pas ici dans de la communication. Je crois qu'il faut voir ce qui marche. Neuchâtel est revenu en arrière par ailleurs. De ce fait, on maintient la structure. Et le groupe de travail avec des représentants du Parlement était d'accord avec ça. Donc, on est arrivé à cette conclusion. Donc, la structure, on la garde. Maintenant, c'est vrai qu'un des cadres aussi de cette réforme, c'était de dire qu'il ne faut pas que ça coûte plus cher. On connaît notre situation financière dans le Jura, donc il ne faut pas que ça coûte plus cher. Mais si on peut faire une petite économie, on ne l'a jamais caché. Ce n'était pas le but de faire une mesure d'économie, pas du tout. La grille, elle date de 93. Hein. Il fallait de toute façon faire quelque chose. Mais le fait de prendre en considération l'état des finances du Jura, ça a été fait. Alors là, on parle de 120, si je suis précis, 128 périodes qui seront économisées par semaine. Donc ça fait de l'ordre de un peu plus de 4 EPT sur l'ensemble des enseignants. Voilà, c'est raisonnable, mineur. Et ça permet surtout au système de fonctionner, mais toujours avec cette volonté que ça ne coûte pas plus cher. Ça, c'était un des cadres.
C'est ce qu'on va retenir. Merci Martial Courtet d'être venu avec nous en direct. Très bel après-midi.
Merci à vous également.
Merci à vous Régis et vous retrouverez cet entretien en intégralité sur rfj.ch. Les coupes dans le personnel de l'État votées par le Parlement jurassien hier ne passent pas auprès du syndicat des services publics. Les députés ont accepté hier une motion du PCSI pour supprimer 100 EPT d'ici 2030. Cela correspond à 5% du personnel de l'État qui s'élève actuellement à près de 2000 EPT, répartis à part quasiment égale entre administration et enseignement. La décision du législatif choque le responsable régional du syndicat des services publics, Thomas Sauvin.
On l'a pris très froidement. Hein. C'est une attaque contre la fonction publique qui a maintenant besoin qu'on la rassure, qu'on l'encadre, qui fait un excellent travail, qui est mis sous pression depuis de nombreuses années. On n'accorde pas le renchérissement à plein. On a une ponction de solidarité et le signal donné d'une coupe à l'emporte-pièce comme ça, sans objectif dans les services, est vraiment malvenu. C'est évidemment pas la bonne méthode de taper une fois de plus sur le dos des fonctionnaires. On a toujours l'impression que ces gens-là pensent que le fonctionnaire on a toujours un petit peu sous le coude et puis qui peut faire le même travail avec un peu moins de temps ou avec un peu moins d'effectifs. C'est pas vrai. Maintenant, je crois qu'on arrive aux limites de ce qu'on peut remanier l'État dans ces conditions-là. Si on veut avoir une réflexion sur repenser l'État, il n'y a pas de souci, on peut discuter de tout, mais il faudra discuter de savoir si certaines charges devraient être peut-être abandonnées et en tout cas, on ne peut plus serrer la corde encore pour le personnel de l'État.
Thomas Sauvin ajoute que le syndicat des services publics mènera des réflexions pour réagir et protester contre cette décision. Lui quittera le Parlement jurassien. Le député socialiste Loïc Daubler annonce aujourd'hui sa démission avec effet au 20 mai. Il dit vouloir transmettre le flambeau à de nouvelles forces. L'ancien président du Parti socialiste jurassien a siégé durant 3 législatures. Vous l'entendrez dans le journal de 18h. Le Parlement jurassien a aussi accueilli hier une délégation québécoise officielle. Sébastien Schneeberger fait partie des représentants du Québec qui sont arrivés mardi dans la région. Le cinquantenaire est né à Moutier et a vécu jusqu'à l'âge de 14 ans à Reconvilliers. Il a ensuite immigré au Québec avec sa famille qui est partie de l'autre côté de l'Atlantique pour cultiver des terres. Le prévôtois d'origine et la délégation québécoise ont été reçus mardi par la municipalité de Moutier. Sébastien Schneeberger, qui siège à l'Assemblée nationale du Québec, explique comment il a vécu ce moment particulier.
C'est un beau retour dans ce cadre-ci plus officiellement, étant donné que je suis quand même revenu voir ma famille dans la région à plusieurs reprises. Mais cette fois, c'est officiellement. Et puis, j'ai vécu ça avec beaucoup d'émotion parce qu'ils nous ont fait une histoire un peu de la région du Jura. T'sais, il y a certains bouts d'histoire que je ne connaissais pas. La vision là, de tout l'historique là, de la séparation de la région pour fonder le canton du Jura, il y a quand même certains éléments que je ne connaissais pas. Alors, j'ai pris ça avec beaucoup d'émotion. Je pourrais dire oui.
La ville de Moutier a été au cœur de l'actualité, dans le Jura, mais aussi en Suisse, avec son changement d'appartenance cantonale. Quel regard est-ce que vous portez sur l'ensemble de ce processus?
Ben, c'est un très long processus parce qu'on nous a présenté tout l'historique. Alors moi, plus petit, j'ai vécu ça un peu plus tôt négativement, dans le sens qu'il y avait des confrontations. À l'époque, j'étais tout petit, dans les années 80, il y a eu beaucoup des fois du grabuge et autre chose comme ça. Mais aujourd'hui, bon, mais ça s'est fait démocratiquement, alors ça a choix qu'il faut respecter pour tout le monde. Et puis, j'espère que le transfert va se faire bien. C'est sûr que, comme partout, il y a toujours des éléments qu'il faut corriger et autres. Alors, c'est pas, il n'y a rien qui est simple.
Des propos recueillis par François Comte. La délégation québécoise achève sa visite dans le Jura aujourd'hui. À Basse-Vandeline, l'élection au conseil communal est contestée. La rédaction de RFJ a appris ce matin que le candidat battu, Marcel Fulpin, a déposé un recours administratif auprès de la chancellerie d'État. L'homme avait recueilli 105 suffrages contre 218 pour Alain Volfaire, candidat de l'entente villageoise qui a donc été élu. La chancellerie jurassienne n'est pas la bonne instance pour traiter le recours et l'a donc transféré au juge administratif du tribunal de première instance. Selon Marcel Fulpin, les conditions d'organisation et de déroulement du scrutin sont entachés de graves irrégularités. Le citoyen de Bonfol rapporte notamment que l'urne de vote par correspondance a été remplie et scellée sans la participation ni la supervision du bureau électoral. Marcel Fulpin demande l'annulation de cette élection. Le marché concours a connu une 119e édition déficitaire et c'est une première depuis 2019. Les comptes 2024 de la fête du cheval Franche-Montagne affichent une perte de 24 400 francs. Ils ont été présentés hier soir à Seignelégier lors de l'Assemblée générale de la Société coopérative d'agriculture des Franches-Montagnes. Le déficit était même de 41 400 francs, mais le rendement des titres détenus par la société a permis de le réduire. Ce résultat négatif vient couper une dynamique positive, Nicolas Meusy.
Le marché concours restait sur deux éditions assez exceptionnelles, selon son président Vincent Vermeil, avec des bénéfices de 46 000 et 56 000 francs. Mais l'an passé, la manifestation a connu une baisse de fréquentation d'environ 20% par rapport aux deux dernières années. Moins de 50 000 visiteurs sont venus à Seignelégier. Vincent Vermeil l'explique par une météo trop chaude le dimanche et l'hôte d'honneur, l'Alsace, qui a amené moins de personnes qu'attendues. Le président note aussi des charges lourdes et incompressibles pour les infrastructures et la sécurité qui pèsent sur les comptes. Mais pas de panique dans les rangs des organisateurs qui attendront de voir les résultats des deux prochaines éditions du marché concours avant de mettre en place de possibles mesures d'économie.
Le 120e marché concours se tiendra du 8 au 10 août prochain à Seignelégier. Le canton de Genève sera l'invité d'honneur. Le parking de Chasseral sera-t-il payant ou non? Le propriétaire de l'hôtel-restaurant et la commune de Nau sont en désaccord. Hier, les autorités ont vivement réagi à l'annonce faite en début de semaine d'une tarification sur toute la place. Les explications de Colline Grasset.
La commune de Nau a répondu par un communiqué de presse après l'installation d'un horodateur par le propriétaire de l'hôtel-restaurant Chasseral. En sa qualité d'autorité de police et de construction, le conseil communal a décidé d'interdire à l'établissement de rendre son parking payant. Elias Vogt, le propriétaire, n'a pas tardé à réagir, lui aussi par voie de communiqué. Il répète ce matin que le parking du Chasseral est une propriété privée, ce qui lui laisse le droit d'apposer un tarif journalier.
Difficile en l'état de savoir qui est en tort dans cette affaire. On retrouve Colline Grasset.
Ce n'est pas simple. En réalité, les deux parties se basent sur la décision de la préfecture du district de la Neuville de 2006, mais avec des interprétations différentes. Selon la commune de Nau, la préfecture aurait affirmé qu'une partie du stationnement était destinée à l'hôtel et une autre partie aux visiteurs publics du site de Chasseral, et cela même si toutes les places sont sur la propriété de l'hôtel. La commune estime donc que l'établissement n'a pas le droit d'installer un horodateur. Mais Elias Vogt n'est pas de cet avis. Selon lui, cette décision de préfecture ne portait que sur les dimensions du parking. Il affirme que même s'il n'est pas réservé exclusivement à la clientèle de l'hôtel, cela n'empêche en rien son exploitation commerciale. Il ajoute encore que plusieurs services gratuits sont à disposition des usagers en contrepartie. Le désaccord entre la commune de Nau et Elias Vogt n'est pas nouveau au sujet du parking de Chasseral. Un recours de l'hôtel Chasseral est actuellement pendant devant le tribunal administratif du canton de Berne à ce sujet.
Reste à savoir si le propriétaire de l'hôtel-restaurant Chasseral respectera ou non l'interdiction d'exploitation de l'horodateur prononcée par la commune de Nau. Elias Vogt a dans tous les cas la possibilité de recourir contre cette décision. Dans l'actualité nationale, les exportations horlogères suisses ont évolué en dents de scie au premier trimestre. Après une hausse des envois en janvier, un net repli en février, les exportations ont cru le mois dernier de 1,5% à 2,13 milliards de francs, à la faveur notamment d'une reprise aux États-Unis. C'est un retour fracassant de l'hiver en Valais. Le Conseil d'État valaisan déclare aujourd'hui la situation particulière dans le canton en raison des fortes chutes de neige de ces dernières heures. Avalanches et chutes d'arbres sont craintes. Toutes les écoles restent fermées aujourd'hui. Le trafic routier et ferroviaire est fortement perturbé. La population est invitée à limiter les déplacements au strict nécessaire. Les vacanciers qui ont prévu de se rendre en Valais sont invités à repousser leur arrivée. La neige doit encore tomber cet après-midi.
RFJ, il est 12h32.
RFJ, sport.
Steve Guerda est proche de faire son retour sur la scène mondiale. Le cavalier jurassien a été opéré du ménisque en décembre, puis d'une hernie au dos en février. Le médaillé d'argent aux derniers Jeux Olympiques était de passage dans le Jura hier pour recevoir le prix du sportif jurassien de l'année 2024 au mérite sportif. Le Vadet de 42 ans en a profité pour rassurer sur sa motivation toujours intacte. Steve Guerda entrevoit la fin de sa convalescence.
Je me sens plutôt très bien maintenant. J'ai plus de douleurs, j'ai encore pas récupéré toute ma mobilité, mais sinon tout ce qui est remise en forme et force et tout ce que j'ai besoin pour monter, c'est plutôt les voyants sont plutôt au vert. Il me manque encore de la sensation dans la jambe droite, puisque j'avais perdu presque toute la sensation dans la jambe droite et j'ai encore la partie extérieure et notamment le pied où j'ai encore pas beaucoup de sensations, mais j'ai réussi à me remettre à cheval il y a une bonne semaine maintenant. Et puis bah, le fait que ce soit l'extérieur de la jambe, ça me permet quand même de monter, ça me dérange pas beaucoup à cheval, donc on va dire que c'est sur la bonne route et il reste encore du travail pour être à 100%, mais j'espère pouvoir me remettre en compétition et que ouais, de me remettre en selle, ça m'apporte les derniers petits réglages et que ça m'aide aussi mentalement à vite revenir au plus haut niveau.
Steve Guerda espère être remis pour participer au concours 5 étoiles de Windsor dans 5 semaines. Retrouvez l'interview complète sur rfj.ch. Le FC Basse-Cour veut poursuivre sur sa bonne lancée. L'équipe Vadez se déplace à Mouton ce soir à 20h15. C'est dans le championnat de Première Ligue de football. Invaincu depuis 4 rencontres, la troupe de Loulzimouchi pourrait faire son entrée dans le top 5 en cas de victoire en banlieue baloise. Et c'est l'heure des derniers coups de patin pour la bande du jeudi. Notre podcast dédié au HC Ajoie sera diffusé pour l'ultime fois de la saison ce soir à 20h. Vous le retrouverez aussi sur rfj.ch. Nos chroniqueurs accueillent le président du HC Ajoie, Patrick Awert, pour dresser le bilan de la saison. Vous apprendrez notamment que le HCA devrait commencer le prochain exercice avec 2 défenseurs étrangers. Merci beaucoup pour votre écoute. Bon appétit et très bon week-end de Pâques.